Philippe court inaugural de l'année 84-85, Saint-Joseph, 16 octobre 1984.
Salut tous, les anciens et les nouveaux. À Fribourg, j'avais l'habitude de commencer l'année en rappelant ce que saint Thomas dit à propos du De Magistro. C'est quand même pas mauvais de se rappeler ça. Je vous demande pas de le lire, parce qu'il n'y a pas de traduction. Mais ceux qui peuvent le lire, c'est quand même un très beau traité du De Magistro. Surtout quand c'est écrit par saint Thomas, parce que c'est quelqu'un qui a eu donc la grande expérience de ce que représente le fait d'enseigner. Et saint Thomas montre que l'enseignement fait partie des œuvres de miséricorde. C'est même une des très grandes œuvres de miséricorde. Au-delà de l'enseignement, il y a la prière. Mais immédiatement après la prière, c'est l'enseignement. Comme grande œuvre de miséricorde. Évidemment, au point de vue surnaturel, on dira que la prédication passe encore avant. Mais le caractère de l'enseignement et de la prédication sont très liés comme des œuvres de miséricorde. Et par le fait même que c'est une œuvre de miséricorde, vous comprenez que le professeur doit être au service des étudiants, d'être le plus proche possible d'eux. C'est pas toujours commode parce que de fait on est nombreux et que on n'a pas autant de temps qu'on le voudrait. Si on pouvait demander de temps en temps, soleil, arrête-toi, n'est-ce pas, ce serait très très bien et on pourrait rester alors un peu plus longtemps. Mais le Seigneur ne le permet pas et donc on est soumis à ce conditionnement du temps et du lieu. Puisque de fait, l'école Saint-Jean comporte deux maisons, ici et à Rimont. Ici, vous savez bien, c'est le noviciat, c'est les cours de philosophie en premier lieu, non pas parce que c'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est parce que c'est nécessaire pour la théologie. Et que c'est nécessaire tout simplement aussi pour la purification profonde de notre intelligence. Nous avons besoin de philosophie. Si on veut avoir une intelligence qui cherche la vérité, une intelligence qui ne se laisse pas emporter par les passions et par l'imaginaire, Nous en avons besoin. Nous avons besoin de revenir tout le temps à la philosophie. Vous vous souvenez, pas vous, mais ceux de Rimont se souviennent bien, quand Monseigneur Kia est passé, je lui dis, Monseigneur, il y a un cours de philosophie, je venais avec lui, je venais de Fribourg avec lui, c'était une route qui s'était faite l'hiver et donc qui était assez fatigante et belle. Et je lui dis, maintenant vous allez vous reposer, il y a un cours de philosophie. Alors il m'a regardé, il dit, c'est vous qui le faites? Alors je lui dis, oui, je fais le cours de philosophie. Oh, Julien! Alors je lui dis, pourquoi? Vous en avez déjà assez. La philosophie, plus on est âgé, plus on la goûte. Et on a toujours quelque chose à prendre d'un cours de philosophie. J'ai trouvé ça merveilleux. La vieille sagesse de la Chine, n'est-ce pas, qui était là et qui nous montrait que nous avons toujours quelque chose à prendre. C'est vrai. Mais évidemment, on a aussi d'autres occupations. Alors je rappelle, parce que nous formons de fait cette année-ci des groupes un peu différents. Nous sommes tous unis au cours, mais nous avons des autorités différentes et des contrôles différents. Alors, les novices, ça fait une catégorie particulière, hein, assez importante pour le cours de philosophie. Les novices, normalement, assistent aux cours de philosophie qui leur sont donnés, ceux de première année, ceux de deuxième année. Quand ils sont fatigués, ils demandent la permission au père maître. Normalement. Et si le père maître n'est pas là, ils peuvent présumer, mais ils doivent lui dire après. Ceux de deuxième, troisième année qui ne sont plus novices et qui sont profs, doivent demander normalement la permission, s'ils jugent qu'ils n'ont pas assisté au cours, la permission ou au père prieur ou à moi-même, tant qu'il n'y a pas de père particulier pour les prophètes. Assistent aussi au cours des étudiants qui font une petite catégorie particulière cette année-ci, puisqu'ils commencent à être assez nombreux. Je ne dis pas des étudiants libres, ce serait très très mauvais de dire ça. Des étudiants aussi sérieux que les autres, et donc qui, de fait, eux, forment un groupe particulier, puisqu'ils ne font pas partie directement de la communauté Saint-Jean, ils en font partie spirituellement. Mystiche, hein. Bon, ils en font partie spirituellement et nous les considérons absolument comme nos frères. Ça, c'est très important. Mais on joue pleinement les lois du jeu, c'est-à-dire que normalement, les frères ne reparlent pas. Et s'ils ont à voir tel ou tel frère, ils demandent la permission ou au père maître ou au prieur. Je crois qu'il faut que nous puissions être là-dessus très net. Il ne faut pas dire, ah, on suit le même cours, donc après on a le droit de... Non, on suit le cours, c'est-à-dire qu'on pâtit ensemble. Alors évidemment, quand on a pâti pendant une heure ensemble, on a envie d'échanger tout ce qu'on a souffert, n'est-ce pas ? Et on a envie de se parler. C'est normal, ça c'est la compagnie de ceux qui sont... Mais je crois qu'on pourra nommer, on verra ça, je verrai assez vite le petit groupe, puisque je suis quand même un peu responsable avec le père prieur de ce groupe, auprès des évêques, hein, je suis un peu responsable. Donc je verrai avec eux le style de vie qu'ils désirent avoir, sans nécessairement écouter tous leurs desiderata, hein, vous comprenez bien. On essaiera d'être très souple pour qu'ils aient une vie studieuse. N'est-ce pas ? Ils viennent pour ça. Une vie studieuse et une vie qui leur permet aussi, au point de vue spirituel, d'être le plus ouvert possible et recevoir le plus possible. Mais c'est bon, je crois. Alors on verra si au milieu d'eux, il ne faut pas nommer un doyen. Il y a toujours un doyen dans toute communauté, n'est-ce pas ? Et c'est bon, parce que aller demander la permission à droite ou à gauche pour des... Et je crois que c'est bon qu'il y ait quand même une certaine discipline. souple, très souple, la discipline doit être très souple, vous savez bien, dans l'ordre Saint-Dominique, le premier règlement, c'est la dispense. Alors, c'est bien, c'est d'avoir une dispense. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine organisation pour le bien de tous, c'est pour le bien commun. Puis alors, il y a nos sœurs, alors cela, elles ont leur autorité, elles, et elles savent ce qu'elles doivent suivre comme cours. Et elles savent aussi le respect du silence par rapport aux frères. Parce que je crois qu'il faut que nous fassions ces cours avec un désir très grand de recherche de vérité pour être au service du Christ, de l'Église, au service des hommes, de tous les hommes. C'est une des choses qui me frappe beaucoup, vous voyez que Vatican II demande l'ouverture au monde. Et l'ouverture au monde, je crois qu'on ne peut vraiment avoir une ouverture au monde que si on a déjà, au plus intime de nous-mêmes, une certaine recherche de ce que c'est que l'homme. Toute la philosophie n'a pas d'autre but, vous le verrez. La philosophie n'est pas premièrement, voyez, une information, une méthode, une technique. La philosophie est premièrement une attitude d'esprit pour rechercher ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. C'est ça qu'on doit essayer d'acquérir progressivement. Je l'ai déjà dit à quelques-uns d'entre vous, avant d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, j'aimais beaucoup les mathématiques. Au bout de 8 ans d'études chez les dominicains, c'était au Solchoir à ce moment-là, le Solchoir de Caen en Belgique, j'ai fait un peu le bilan. Je lui dis, mais je n'ai rien en main. Si j'avais fait 8 ans de mathématiques, j'aurais quelque chose. Je comparais, vous voyez, je louchais toujours un peu sur les mathématiques. J'aurais quelque chose, 8 ans de mathématiques, donné à fond, parce qu'on travaillait beaucoup ce soir, avec un esprit de recherche vraie et de recherche de la vérité. C'était très net, on avait des professeurs qui souvent nous donnaient, pas tous, parce qu'il faut bien qu'il y ait des professeurs qui nous fassent dormir pour qu'il y ait des professeurs qui nous révèlent, c'est ça. Il y a des professeurs qui nous faisaient dormir, ça, c'était très net, je ne les nomme pas par charité, mais c'était ces professeurs qui nous faisaient. Alors à côté, il y avait au contraire des professeurs qui nous éveillaient. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études philosophiques et théologiques, on a une formation intérieure. C'est ce que saint Thomas appelle un habitus. On verra ce que c'est. Hein. Pour le moment, c'est une bête rare et curieuse. Hein. Cherchez si vous avez un habitus. C'est intraduisible, habitus. C'est-à-dire un pli de l'intelligence, une orientation de l'intelligence qui nous permet de mieux saisir, de mieux regarder, de comprendre que la réalité est difficile à saisir parce que nous saisissons surtout les choses extérieures et que nous avons de la peine à les saisir de l'intérieur. Nous avons un habitus qui nous aide à être plus intelligents. La philosophie n'a pas d'autre but. Nous apprendre à être intelligents. Pour nous, parce que être intelligent, c'est la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité nous donne une grande paix. On n'est pas dans une attitude d'opposition. C'est tellement important. On est au contraire dans une attitude d'accueil. C'est ça être intelligent. C'est de savoir que toutes les réalités que nous voyons, que toutes les personnes que nous voyons, même si elles ont des opinions très différentes de nous, il y a toujours quelque chose à saisir. Être intelligent, saint Thomas prend là l'étymologie d'Isidore, mais qui est très actuelle, c'est pour ça que je l'aime bien, elle est très actuelle. Intus legere, lire de l'intérieur, Ricoeur dirait ça, c'est lire de l'intérieur, c'est ça être intelligent, ce n'est pas regarder les choses de l'extérieur. Si on regarde les choses de l'extérieur, vous savez, on divise en antipathie et en sympathie et antipathie. C'est vrai, de l'extérieur, c'est comme ça. Ah, il y a des choses, ah, je les aime bien, c'est sympathique. Oh, oh non, ça, pas du tout. Alors, on ne les regarde pas, on les rejette. C'est pas intelligent, ça. Être intelligent, c'est essayer de trouver son bien partout. Son bien, c'est-à-dire découvrir l'homme en profondeur et par l'homme remonter jusqu'au Créateur. Le philosophe doit aller jusque-là. Avoir cette attitude d'accueil, d'intelligence. Toutes nos études philosophiques, et vous savez bien qu'ici, on insiste beaucoup sur les études philosophiques, pas à cause de moi, mais parce que on sait que c'est important, la philosophie, pour ensuite faire de la théologie. C'est important d'aller le plus loin possible dans la philosophie pour avoir cette attitude d'accueil vis-à-vis du monde. Le théologien parle des croyants. Le philosophe parle à tout homme. Et le philosophe doit pouvoir écouter tout homme et essayer de découvrir dans chacune des personnalités, même quand il a affaire à des gens qui sont dans des idéologies très opposées à ce que lui peut penser, il doit pouvoir encore les atteindre. Parce que au-delà de l'idéologie, on doit découvrir l'homme. Et le propre du philosophe, c'est d'essayer tout le temps de découvrir l'homme dans sa véritable dimension, dans sa dimension humaine. Alors évidemment, il doit de temps en temps porter des jugements, c'est bien évident. Il doit discerner. Enfin, l'étymologie du mot jugement, krinein, discerner, c'est beaucoup plus beau encore que jugement. Celui qui est intelligent, il discerne. Il discerne les choses nécessaires et les choses accidentelles. Il discerne les choses bonnes et les choses moins bonnes, et les choses nuisibles. Il doit arriver progressivement à discerner cela. Les études philosophiques que nous faisons ici sont avant tout, vous voyez, des études qui sont pour former l'intelligence, la purifier. Je crois que nos études philosophiques sont une purification active en vue de la contemplation. Nous cherchons tous à tendre vers la contemplation, parce que nous savons que c'est essentiel dans notre vie. Alors évidemment, on pourrait se tourner les pouces en disant « Ah, moi, la contemplation, elle est uniquement infuse, c'est le Saint-Esprit qui me la donnera quand il le voudra. » C'est une très mauvaise manière d'être à l'école de l'Esprit-Saint, parce que le Saint-Esprit ne favorise pas la paresse. Ça, c'est bien évident. Et donc, nous devons faire tous nos efforts pour essayer d'avoir une intelligence suffisamment profonde qui s'oriente vers une contemplation. Et une intelligence qui s'oriente vers une contemplation, c'est une intelligence qui cherche la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité, hein ? Ça, on se pose la question, on doit se la poser tout le temps. Et on se la posera tout le temps. Et on verra que, de fait, la vérité, c'est quelque chose que nous saisissons assez vite, mais que nous saisissons toujours très mal. Et que nous avons beaucoup de peine à aller jusqu'au bout de toutes les exigences de la vérité. Et donc, c'est quelque chose qui est au point de départ et qui est toujours au terme. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité. Une vérité sur l'homme, dans la totalité de l'homme. Celui qui vraiment essaie d'approfondir ce que doit être la vérité, d'approfondir, de comprendre ce que c'est que la réalité. Il doit n'avoir aucun a priori. Ça aussi, c'est très important pour être accueillant. La plupart du temps, nous ne sommes pas accueillants parce que nous avons des a priori. Ah, telle personne, on met une étiquette sur le dos. Il est progressiste, il est intégriste. Alors à partir de ce moment-là, on est catalogué jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas très intelligent de mettre des étiquettes. Oui, sur les remèdes pharmaceutiques, c'est intéressant de mettre des étiquettes, mais pour autre chose, pour des travaux matériels, c'est important de mettre des étiquettes, mais pour les choses qui sont de l'esprit, et surtout pour l'homme, c'est indigne de mettre l'homme dans une étiquette. Parce que même s'il est intégriste, même s'il est progressiste, il reste un homme. Même s'il est marxiste, il reste un homme. Il ne faut pas dialoguer avec le marxiste, il faut dialoguer avec l'homme. En sachant que s'il est marxiste, il faut récupérer l'homme, dans le très bon sens récupérer, c'est-à-dire refaire vivre en lui l'homme. Et au fond, perpétuellement, dans notre philosophie qui se veut réaliste, il faut que nous revenions tout le temps à l'homme. La philosophie est au service de l'homme. Et donc au service de nous-mêmes, au service, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'Église, au service de l'humanité. Elle est au service de l'homme. À la différence des idéologies. Je crois que c'est toute la différence qui existe. Et ça, nous verrons constamment, parce que c'est important. Nous vivons dans un climat d'idéologie. Ça, c'est sûr. Il y a un bombardement idéologique qui n'a jamais été aussi fort que ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est très intéressant de pouvoir saisir ces diverses idéologies modernes. C'est très important de comprendre comment ces idéologies, à la place d'être au service de l'homme, la plupart du temps, ramènent l'homme à une idéologie. Et donc, ces idéologies, à la place d'aider, elles mûrent. L'homme est au service des idéologies. Tandis que la philosophie doit être au service de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle est réaliste. Et que l'homme, c'est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter. Je ne peux pas expérimenter une réalité plus parfaite que l'homme. Et par le fait même, toutes mes connaissances doivent tout le temps revenir à l'homme. C'est l'homme que je cherche. C'est l'homme qui me conduit. C'est lui qui est la mesure de mes connaissances. C'est lui qui est la mesure de mon intelligence et de ma philosophie. C'est lui que je recherche tout le temps. Pour mieux le connaître, et par le fait même mieux me connaître, et si je suis croyant, pour essayer de mieux voir comment il pourrait y avoir une orientation vers l'absolu, vers le Créateur, et comment la grâce pourra s'emparer de lui. Évidemment, le Saint-Esprit ne suit pas toujours ce que nous détectons au point de vue philosophique, et les conversions se font, on le sait bien, à partir de l'Esprit Saint. Mais nous devons coopérer et nous devons comprendre que, de fait, si nous pouvons coopérer, nous devons le faire avec la plus grande simplicité et la plus grande ardeur. Cette année-ci, il y aura quelque chose de particulier parmi les étudiants, puisqu'il y a une quatrième année de philosophie, ce qui est la première fois qu'on a ça. Quatrième année de philosophie, qui fait que ceux de quatrième année de philosophie sont dispensés de tous les cours, sauf des cours de théologie. Pas tous peut-être, mais au moins certains. Je crois que c'est quand même, il reste des religieux. Ils ne sont pas uniquement des bêtes à examen. Alors, il faut comprendre que cette quatrième année de philosophie qui existe cette année-ci fait un souterrain avec l'université de Lyon, la faculté de philosophie. Ils le savent, mais c'est bon que tout le monde le sache. pour respecter leur temps de travail, parce que c'est un très gros travail qu'on leur demande. Mais je crois que c'est bon. D'abord, c'est une manière de rester en contact avec l'université d'État. Dans le climat d'aujourd'hui, c'est bon de rester en contact. Et ça forcera les contacts. On verra comment on pourra le faire de la façon la plus intelligente qui soit. Mais je crois que c'est bon. Alors forcément, ça forme un petit groupe, un petit noyau exemplaire au milieu des autres. Exemplaire parce qu'ils sont plus âgés. Exemplaire parce qu'ils sont en quatrième année de philosophie et qu'ils devront travailler avec beaucoup de courage. On viendra de temps en temps les bénir pour les aider. Et je demande donc, c'est le frère Benoît qui se chargera d'eux d'une façon particulière, et comme ce sera un peu lourd pour lui, il demandera aussi au frère Jean-Bernard de les aider, et puis moi-même je viendrai en troisième lieu quand je peux pour essayer vraiment de faire que cette année soit pour eux pas seulement une année en vue des examens, c'est-à-dire en vue de la licence, que ce soit une année aussi qui permette d'être comme une application de tout ce qu'ils ont saisi au point de vue philosophique par rapport à d'autres pensées philosophiques. Parce que ordinairement nous faisons les cours d'histoire de la philosophie ici, nous les faisons, mais nous les faisons d'une façon un peu seconde. Là, ils seront obligés d'étudier ces philosophes et de les étudier pour eux-mêmes. Pas de les étudier en fonction de la pensée d'Aristote et de saint Thomas. Ça, c'est très mauvais de faire ça. On doit étudier ces philosophes pour eux-mêmes, c'est-à-dire essayer de découvrir quelle est leur démarche, le point de départ et le terme, quelles sont leurs recherches, quelles sont, on verra ensemble, hein, mais il faut le faire avec intelligence. Et c'est toujours enrichissant d'avoir un contact avec une pensée philosophique différente. On doit l'avoir très vite, ce contact-là. Certains l'ont eu bien avant d'entrer ici. Ceux qui ont commencé la philosophie ici, eh bien, se sont plongés dans la philosophie d'Aristote et de saint Thomas et dans une philosophie réaliste qui fait que... je ne dis pas que ça met des œillères, parce qu'une vraie philosophie réaliste doit être à l'écoute de la réalité. Mais... on n'est pas du jour au lendemain capable de regarder la réalité. On reste encore avec nos opinions ou les opinions du professeur. Et alors les opinions du professeur sont mises avec une auréole qui fait que quelquefois il y a l'empêchement, ça empêche d'atteindre la réalité. Je comprends très bien, c'est forcé, ça fait partie de toute école, c'est comme ça. Mais il faut être conscient de cela, une espèce d'autocritique qui est bonne, de comprendre que quand on aborde un philosophe, on doit l'aborder pour lui-même. On doit d'abord l'écouter, l'entendre, exactement comme dans un dialogue. Si vous étudiez Descartes, si vous étudiez Kant, dialoguez avec lui. Écoutez-le. Si vous avez des questions, questionnez-le. Et puis essayez de comprendre. Voyez jusqu'où ça va. Donc, je crois que c'est très important qu'au milieu de nous, il y ait comme ça un petit noyau qui est ce travail important. On verra comment faire participer aux autres, peut-être. Après tout, ce ne serait pas si mal de temps en temps, peut-être faire un petit cours libre, si parmi ceux qui préparent tel ou tel peuvent exposer la pensée de tel philosophe qui les a paru particulièrement intéressante. J'aimerais beaucoup ça, parce que ce sont les aînés qui peuvent enseigner par rapport aux plus jeunes et apporter quelquefois un sang nouveau, n'est-ce pas ? Alors c'est quand même pas mauvais ça. Il y a aussi comme travail communautaire, ce qu'on appelle les séminaires. Alors, les différents séminaires seront, c'est important aussi de pouvoir les travailler ensemble et d'entrer profondément dans ce point de vue-là. Cette année-ci, le séminaire sera un séminaire de théologie naturelle avec l'argument ontologique et ses critiques. Donc il y a là quelque chose qui peut être intéressant. Et quand je prends l'argument ontologique, je le prends dans tout son aspect très très vaste, son enracinement dans le néoplatonisme et tous les multiples aspects de l'argument ontologique. On verra ça au cours. Simplement pour signaler les travaux qui peuvent être un peu un enseignement mutuel et communautaire. Il y aura des sessions habituelles, la philosophie grecque avec le père Stéphane Marie, Aristote, critique de Platon. On a vu Platon l'année dernière, il entrera dans Aristote comme critique de Platon, puisqu'on peut voir Aristote de diverses manières, et je crois que ça peut être intéressant. Dans la philosophie moderne, nous aurons notre cher Prosper, Hohang, avec Nietzsche. Alors, je vous demande de vous passionner pour Nietzsche, mais pas en lire de trop. Mais de vous passionner pour Nietzsche, c'est passionnant, Nietzsche. Sûrement une des physionomies les plus attachantes dans notre monde d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est un de ceux qui a une très grosse influence. Et avec intelligence, hein. Vous aurez la sociologie avec le père Delobier, comme de coutume. Alors c'est autre chose, mais c'est très important aussi, parce que c'est très important pour nous de comprendre ce que doit représenter le point de vue de l'Église au point de vue social. Il est un spécialiste de la question, vous le savez bien. Et là, il peut vous apporter beaucoup parce qu'il est vraiment tellement ami avec nous. Nous aurons les cours de M. Belmès, de philosophie moderne, deuxième et troisième année, Descartes et Bergson. En logique, deuxième année. Et puis, un cours de critique libre. Je dis libre parce que quand on a affaire à des jeunes philosophes qui n'ont pas encore leurs dents de sagesse et qui ont encore leurs premières petites dents, quand il y a des os trop durs, alors ça leur fait quelquefois un petit peu de difficulté. Et je crois que ça permettra à M. Belmès de pouvoir donner davantage ce qu'il porte en lui. Les cours de frère Benoît. Alors, pour la première année, introduction à l'histoire de la philosophie, une heure. Ça, c'est pour la première année. Donc, les novices, hein, c'est bon pour eux. C'est une introduction à l'histoire de la philosophie. Et puis un pro-séminaire, deux heures, pour la première année. Et c'est très important le pro-séminaire parce que ça apprend un peu à travailler. Alors pour la première année, le frère Benoît sera aidé d'aîné, c'est-à-dire d'un parrainage. Parce qu'on entre dans la philosophie avec plus ou moins de facilité. Alors il est bon d'avoir un parrainage. Étant donné le nombre, c'est bon d'avoir un frère aîné qui aide. Et ça, nous verrons avec le frère Benoît exactement, et puis le père maître, puisqu'il s'agit des novices, et donc le père maître a son mot à dire, et il faut le faire en union pour que cela puisse se faire le mieux possible. Il ne faut pas que vous soyez perdus. Si c'est l'Esprit Saint qui vous mène au désert, c'est très bien. Mais si c'est la philosophie qui vous mène au désert, c'est beaucoup moins bien. Parce que ça ne va plus du tout. Quand c'est la philosophie nous mène au désert, on risque alors à ce moment-là de traîner une patte. Et c'est difficile. Alors que je crois que tout le monde peut faire de la philosophie. Je vous ai toujours cité, je le dis pour les nouveaux, parce que c'est des choses qui sont importantes à avoir, quand je faisais de la philosophie au Solchoir, nous avions un cours de goutte de lait, pro-séminaire. C'est la goutte de lait. Et c'était le bon père Mandonnet qui nous donnait la goutte de lait. Et le père Mandonnet n'était pas du tout philosophe. Hein. Il était historien, c'était un très bon historien, un merveilleux historien qui a passé de nombreuses années à l'université de Fribourg. Il avait même écrit un livre de méthodologie de l'histoire. Et durant l'année, pour donner une matière, c'était ce petit fascicule de méthodologie historique qu'on devait regarder. Alors, il mettait ses lunettes, il lisait la première ligne, puis déposait ses lunettes, puis à partir de ce moment-là, il nous parlait. Il nous racontait des histoires. C'était la goutte de lait, vous comprenez. C'était merveilleux. Puis un beau jour, il nous a dit, ça j'ai retenu, les autres histoires, je les ai plus ou moins oubliées. Ah, il y en a que j'ai retenu. Oh, il y en avait qui étaient très très bonnes, parce qu'on voyait le vieux paysan du père Mandonnet qui à la fin de sa vie redevenait paysan et nous dit des vérités essentielles. Un beau jour, il nous a dit, mes petits frères, vous êtes tous intelligents. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai retenu. Vous êtes tous intelligents. Dites-vous bien, vous êtes tous intelligents. C'est ce que j'étais tout à l'heure. La philosophie doit développer notre intelligence dans ce qu'elle a de plus naturel. Et ça, c'est vrai. La philosophie n'est pas une connaissance spéciale. Elle est devenue une spécialité à cause des professeurs de philosophie, pas à cause des philosophes. Mais à cause des professeurs de philosophie et à cause de certains philosophes qui écrivent d'une façon telle qu'il faut un langage particulier. Mais la philosophie doit être le bien de tous les hommes, puisque c'est l'homme qu'on regarde. Donc, c'est le bien de l'homme. Alors il commençait par nous dire, vous êtes tous intelligents, vous aurez des professeurs différents. Monsieur Balmès, Frère Benoît, moi-même, Stéphane Marie, Prosper, Monsieur de Lobier, c'est des professeurs différents. Puis on peut ajouter Monsieur de Muralt, s'il vient, je ne sais pas s'il va venir, mais c'est possible, ça fait des intelligences très diverses quand on les regarde de près et même de loin. Alors on voit très bien que c'est des intelligences très très différentes, des orientations différentes, heureusement du reste. Animés tous du même esprit, du désir, de la recherche de la vérité. Mais tous avec des chemins et des itinéraires un peu différents. Et c'est bon, c'est bon. Alors vous aurez des professeurs très différents. Vous allez avoir un professeur qui a exactement la même forme d'intelligence que vous. Alors il dira, j'ai un génie dans ma classe. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire tout simplement que vous avez rencontré l'intelligence sœur. Vous avez rencontré une intelligence semblable à la vôtre, et comme il est professeur, il peut porter des jugements de valeur, et il dit donc, j'ai un génie dans ma classe. Puis vous allez avoir des professeurs qui auront une intelligence totalement différente de la vôtre. Vous êtes intuitif, et ce sera la logique pure. Alors, ça n'ira pas du tout. Alors il dira, j'ai un imbécile dans ma classe. J'ai quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Rien du tout, il est complètement bouché à la philosophie. En réalité, il est bouché à la logique, mais pas à la philosophie, c'est deux choses différentes. Vous aurez donc des professeurs qui vous jugeront, ne vous inquiétez pas. Dites-vous qu'il y a diverses formes d'intelligence. Le philosophe dira que l'intelligence a des orientations différentes. Et c'est vrai, et c'est très important de comprendre que l'intelligence a des orientations différentes. Il y a une forme d'intelligence logique, une forme d'intelligence mathématique, une forme d'intelligence scientifique, historique, exégétique. Il y a une forme d'intelligence en philosophie, éthique, politique, métaphysique. Ça peut se rencontrer. Alors, c'est quand même important de découvrir ces formes diverses d'intelligence. Alors, il faut le savoir. Et c'est bon de le découvrir. Vous voyez, c'est une qualité pour l'intelligence d'être lucide. Il faut avoir sa lucidité. Alors, il faut avoir une lucidité intelligente. C'est-à-dire pas tout de suite des absolus. Parce que facilement, on considère que là où on est intelligent, c'est évidemment la forme la plus magnifique d'être intelligent. Et alors, on absolutise quelque chose qui est partiel, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir de temps en temps contact avec des grands maîtres. Et dans la mesure du possible, nous aurons, alors c'est pas annoncé au début, parce que ça se fait au cours de l'année, d'inviter, je sais pas, quelqu'un qui a une grande vision au point de vue de l'astronomie, des artistes. Grâce à Dieu, nous aurons contact avec plusieurs cette année-ci, et ce sera bon, parce que c'est quand même intéressant et important d'avoir ça. Il y a un complément à côté de la philosophie, il y a un complément qui est l'art, qui est plus complémentaire encore que la science. Alors, on ne fait pas beaucoup de cours de littérature ici, pas beaucoup de cours de grammaire, si ce n'est la grammaire latine et la grammaire grecque, mais autrement, on ne fait pas beaucoup de cours de grammaire ici. Alors, c'est bon d'entendre de temps en temps, vous vous souvenez, tous ceux qui étaient là l'année dernière, le cours de Dominique Levert, il sera très heureux de revenir cette année-ci, en nous parlant de Sophocle. L'année dernière, je ne sais pas ce qu'il viendra cette année-ci, je ne sais pas ce qu'il nous dira cette année-ci. Parce qu'avec Sophocle, tout y passait, n'est-ce pas ? Alors, on lui demandera de nous donner ces certains aspects qui lui tiennent à cœur, et puis comment il conçoit le point de vue de la tragédie. Qu'est-ce que c'est que pour lui la tragédie ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est important d'avoir des gens qui sont dedans, parce qu'ils nous donnent leur expérience. Le philosophe ne peut pas avoir expérience dans tous les domaines. Alors il y a un prolongement. Donc, le frère Benoît donnera en première année introduction à l'histoire de la philosophie, et puis les proséminaires. Pour la deuxième et troisième année, des cours de texte, philosophie du vivant, philosophie éthique. Je crois que c'est bon que les deuxième et troisième années y assistent, hein. Presque tous. Sauf encore, il y a toujours la dispense pour ceux qui trouvent que c'est un peu trop, parce qu'il y a quand même pas mal de cours. Et l'année dernière, il y a eu des remarques normales. Hein. À la fin de l'année, c'est tout à fait normal qu'on demande un peu l'avis de tous pour savoir un peu, surtout des profs. Alors, on a trouvé qu'il y avait un peu trop de cours. D'une certaine manière, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Parce que de trop, ça vous permet toujours de demander des dispenses. Pas assez, c'est difficile. Tandis que trop, c'est facile de demander des dispenses. Et ça, je crois que vous devez le faire. S'il y a des cours qui ne vous apportent pas grand-chose, pour des quantités de raisons du reste, hein, c'est pas nécessairement la faute du professeur. C'est quelquefois la faute de l'étudiant. S'il y a des cours qui ne vous apportent pas grand-chose, vous êtes là uniquement par vertu et par assaise, c'est très ennuyeux de donner un cours devant des étudiants ascétiques. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Je me souviens, c'est l'expérience que fait tous les professeurs, c'est qu'on s'est tous ennuyés à certains cours. Et quand on nous demande de nous donner des cours, on n'a qu'un seul désir, c'est de ne pas être cause d'ennui. Parce que c'est encore pire, vous voyez. S'ennuyer à un cours, on arrive toujours à s'en tirer. Tandis que être cause d'ennui, on ne s'en tire pas. Parce qu'on est cause d'ennui. Et c'est terrible d'être cause d'ennui. On a l'impression on a envie de s'arrêter, tout simplement, parce qu'on n'a pas envie que ça continue. Alors, dernier aspect, les cours que je vous donnerai, quand je serai là, j'espère être le plus possible là, le cours de philosophie première. Donc, nous y tenons beaucoup, vous le savez bien. Et je crois que la philosophie première, même quand on croit savoir, on ne sait pas. Et même le professeur. Croyez bien que chaque année, en philosophie première, il y a certains aspects que je découvre. On ne cesse de progresser. Si vraiment on le fait, non pas du tout comme un cours d'information, mais comme une recherche de l'intelligence, alors on peut toujours, tout le temps. Parce qu'on est en face de ce qu'est la réalité. La philosophie première, dite métaphysique, mais j'aime mieux dire philosophie première parce que la métaphysique, avec Heidegger, il y a eu l'enterrement de première classe. Alors c'est difficile de revenir sur l'enterrement de première classe. Alors nous prenons plutôt ce qui n'a pas été considéré encore comme enterrement de première classe, la philosophie première. C'est du reste le vrai nom. Hein. La métaphysique, c'est un nom bâtard. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un nom bâtard. Ça a été donné par les... Vous savez qui? Bon, alors c'est sûr. Donc c'est un nom bâtard. C'est pas la peine de prendre un nom bâtard. Il vaut mieux prendre le nom légitime. Philosophie première, c'est comme ça qu'Aristote l'appelle. Philosophie première. Alors il y aura un cours de philosophie première. Je continuerai la qualité, parce que je crois que c'est quand même important de revenir sur certains points. La relation, et puis nous entrerons dans la grande métaphysique de l'acte. Il y aura un cours d'une heure, certains l'ont demandé et je me suis laissé prendre au jeu, mais alors il sera facultatif. Lecture de texte, la métaphysique d'Aristote. Alors on verra le livre Zeta, je crois, le grand livre. Qu'Avicenne disait qu'il avait lu 50 fois avant de comprendre quelque chose. Alors, vous comprenez, on ferait une première lecture, hein, en essayant d'introduire dedans et de comprendre certains aspects. C'est toujours important. Aristote sert de maître, un maître mort, mais un maître. Alors on y revient, on ne répète pas Aristote, c'est évident que ce serait complètement idiot, ce serait plus de la philosophie, ce serait de l'archéologie. Alors on ne répète pas Aristote, c'est sûr, mais on essaie de comprendre la manière dont il a regardé l'homme face à Platon. Platon, c'est une belle idéologie, une idéologie prodigieuse, merveilleuse, belle, grande. Alors face à toutes les idéologies contemporaines, c'est quand même intéressant de voir ce retour au réel. Et comment faire ce retour au réel? Il y aura un cours de théologie naturelle d'une heure. Alors, ce sera le jugement de sagesse qu'on ne fait jamais et que je voudrais faire avec vous. Parce que ça ne se fait jamais. Jamais fait ce cours et ça ne se fait jamais et il faut le faire. Une fois qu'on a découvert l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, que nous avons découvert ce qu'est le Créateur, on peut essayer, dans la lumière de la création, dans la lumière de l'être premier, de regarder toutes les autres réalités. Vous voyez, je crois que c'est important parce que pour nous, c'est une manière d'avoir une philosophie très existentielle. Parce que c'est le jugement d'existence qui est toujours présent. Puisque c'est à travers le jugement d'existence, hein, puisque ce qui est communiqué à partir de Dieu, c'est l'exister. Nous ferons aussi un cours de philosophie politique cette année-ci, ce que je n'ai encore non plus jamais fait. Mais c'est bien de le faire. Philosophie politique, je le fais à Paris, je le ferai ici, je le ferai à Lyon. Alors comme ça, on pourra ensemble travailler, c'est pas commode. C'est très difficile de faire ça. On avait préparé déjà ça l'année dernière avec le séminaire. Alors on pourra reprendre certains aspects. Et puis c'est très actuel en plus de ça. Mais ce n'est pas la philosophie politique de la politique française ou des partis. Ça n'a rien à voir avec la philosophie politique, ça. Vous ne pouvez pas faire une philosophie des partis politiques. faut essayer de comprendre leur tendance, leur esprit. Il y aura un cours de philosophie de l'art qui lui aussi sera facultatif. Alors sera l'analyse de l'activité artistique. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de cours, ce qui touche un peu les grandes orientations. Évidemment, l'éthique cette année-ci, vous voyez, est coiffée par la politique. La philosophie de l'art, je maintiens, parce que je crois que c'est même... C'est le cours qui tombe toujours quand on ne peut pas faire tous les cours. Hein. De sorte que c'est forcément... Mais c'est quand même très important. Et pour certains, c'est leur manière d'entrer dans la pensée philosophique, d'essayer de comprendre la philosophie de l'activité artistique. Qu'est-ce que c'est que l'activité artistique comparativement à l'activité éthique ? Donc voyez bien, au-delà de cette diversité, il y a une unité de recherche. Au-delà de la diversité des professeurs, il y a une unité. Croyez bien que tous ceux qui enseignent ici, on est très unis, amicalement. Ce n'est pas la condition, mais de fait c'est comme ça. Et c'est bien, je crois, au début, d'être très unis amicalement dans cette même recherche de la vérité. Comme ça, on n'a pas opposé les professeurs, on a à voir leur complémentarité et à mieux saisir cette recherche de la vérité, cette recherche de ce que représente l'homme. Alors, nous le verrons au début, parce qu'il y aura des introductions, forcément. Il n'y a pas qu'un cours inaugural, il y a des introductions pour chacune de ces matières différentes. Et je ne cesserai de vous le rappeler. Nous faisons notre cours de philosophie dans un climat quand même assez particulier, climat religieux. À ce point de vue-là, nous reprenons les vieilles traditions, parce que la philosophie grecque se faisait dans un climat religieux, il ne faut pas l'oublier. C'est assez récent de faire de la philosophie sans climat religieux, et c'est peut-être à cause de ça que la philosophie n'a plus son houmous, et alors qu'elle devient desséchante. Si la philosophie se fait dans un climat religieux, elle n'est pas desséchante. Mais on distingue, hein, on distingue la philosophie, c'est l'intelligence qui doit se développer, qui doit elle-même découvrir son parcours. Mais il y a un climat, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis, de parler franchement. C'est pour ça que vous demanderez toujours, hein, puisque je ne peux pas vous demander après des cours, hein, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, c'est difficile d'interrompre le cours. Moi, je l'aime beaucoup, mais beaucoup d'étudiants aiment moins bien. Alors, je ne demande pas d'interrompre le cours, mais je vous demande d'écrire toujours, avoir toujours un petit papier s'il y a des questions et de l'écrire ces questions. Et puis, me les poser ici. Puis je ferai de temps en temps, je crois que ce sera encore le mieux, de temps en temps, un cours de questions qui sera libre, comme ça. Ça permettra à ceux qui n'aiment pas beaucoup ça de pouvoir partir, de ne pas être là, et aux autres, au contraire, de comprendre un cours. Alors on pose des questions.